France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour derrière l'iceberg géant qui se promène entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud.
C'est très 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 impressionnant. Et c'est un mastodonte. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant de voir cette nature-là. Je ne savais pas du tout que c'était possible en plus.
Voilà à quoi ça ressemble quand on a la chance de voir cet immense iceberg géant, qu'on est dans un bateau et qu'on le regarde. On va évidemment en parler ensemble. Bonsoir Heidi Sévestre.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes glaciologue, vous êtes membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. Vous êtes chez vous, au Svalbard, dont on va rejoindre dans très peu de temps Oriane Lamomiguière, que vous connaissez forcément, qui revient d'une expédition, qui habite pas très loin de chez vous et qui a vu la bête. Justement, d'abord Heidi Sévestre, puisqu'on parle de cet iceberg de 80 km, plus que 3000 km², 400 mètres en profondeur, enfin c'est un monstre. On en parle parce que désormais il bouge, on verra dans quelle direction dans un instant. Est-ce que vous pouvez d'abord nous réexpliquer pourquoi il bouge ? Puisqu'il s'est détaché il y a 40 ans, il n'a pas bougé d'un cil pendant quasiment 40 ans, et le voilà en mouvement, qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Oui, c'est fou hein, comme histoire. Alors, c'est un beau bébé, hein, 3500 km². Il faut comprendre que c'est un tout petit peu plus grand que le département du Rhône. Un iceberg de cette taille-là, bah, c'est un radeau plongé dans l'océan austral, l'océan autour de l'Antarctique, et qui se retrouve à la merci en fait, des vents et des courants. Pendant très longtemps, dès qu'il est né, il s'est retrouvé très vite échoué sur des fonds océaniques peu profonds. Et puis petit à petit, il a commencé à perdre du poids, il s'est allégé, il a pu repartir en mouvement. Il s'est un petit peu coincé dans un tourbillon, et là, depuis le mois de décembre, enfin, il est entraîné par le courant circumpolaire antarctique. Vous savez, les 40e rugissants, les 50e hurlants, il est en plein dedans. Et là, aujourd'hui, il est en mouvement et on le surveille, nous, les scientifiques, de très très près.
Il paraît que ça s'appelle l'allée des icebergs, la route qu'il est en train de prendre. Quoi, c'est le cimetière des éléphants des icebergs, c'est ça l'idée ?
Alors, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'options. Hein. Les icebergs, ils se font tous entraîner par ce courant océanique. Et donc, oui, ils se retrouvent un peu dans cette même allée, dans cette même avenue. Et au bout d'un moment, bah, petit à petit, ils se délitent. Hein. C'est pas les vacances hein, d'être en Antarctique pour un iceberg, quand même. Il se fait attaquer de toutes parts, par les marées, par les vagues. Et là, aujourd'hui, on voit que notre beau bébé, le A23A, il est un petit peu en train de se déditer, mais il reste absolument gigantesque.
Mais alors, il a perdu un énorme fragment qui fait quand même 19 km. Est-ce que ça aussi, c'est normal de se détacher par gros bouts ? Est-ce que ça vous étonne ou est-ce que c'est comme ça que ça se passe, en fait ? C'est pas des petits morceaux, c'est des énormes parcelles.
Oui, et il n'y a rien de surprenant. Je me souviens, il y a une année où j'avais décidé de nommer un iceberg d'après moi, Heidi Berg, on l'avait appelé. Il était tellement gigantesque que j'ai pu le surveiller pendant des années. Et puis petit à petit, il s'est délité et il est arrivé à sa fin. Mais c'est tout à fait naturel déjà que ces icebergs prennent naissance. Hein, la glace en Antarctique, elle n'a qu'une envie, c'est de passer du continent à l'océan. Donc de temps en temps, il y a des gros icebergs qui sont relâchés. Et ensuite, c'est tout à fait naturel aussi que petit à petit, ces icebergs se délitent.
Mais du coup, ça veut dire, Heidi Sévestre, que ce n'est pas une anomalie en fait. Cet énorme morceau qui se détache. Ça s'est déjà vu dans l'histoire.
Oui, alors ça s'est déjà vu. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, le plus gros iceberg jamais observé, vraiment de tous les temps, il faisait 295 km de long.
Wow.
Donc on a l'habitude de voir des très gros icebergs. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est que l'Antarctique aujourd'hui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne planétaire à cause du changement climatique et que malheureusement, ces icebergs-là, ils risquent de prendre naissance de plus en plus fréquemment, d'être de plus en plus nombreux et donc de nous montrer une certaine déstabilisation de la calotte polaire antarctique qui, on sait, peut avoir un impact considérable sur la hausse du niveau des mers. Si l'Antarctique perd sa glace, c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers partout sur Terre. Donc c'est un phénomène très important à étudier.
Et il faut évidemment l'étudier, il faut vraiment le regarder, il faut voir effectivement où il va, ce qui va se passer, y compris s'il commence à se déliter, s'il commence même à certains égards à fondre. Avant d'en parler, vous restez avec nous, Heidi Sévestre, je voudrais saluer Oriane Lamomiguière qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Vous l'avez vu, Oriane, l'iceberg, et il faut d'abord nous raconter l'effet que ça fait, quoi.
Ouais, alors au début on aperçoit une ligne blanche, on dirait la côte, et plus on se rapproche, plus on voit, mais c'est vraiment une falaise de glace, quoi, comme un mur, c'est très très impressionnant. On n'a pas vraiment d'échelle, quand on est sur l'eau, on appréhende mal les distances et les hauteurs, alors c'est dur de se rendre compte de la taille, mais on sait qu'il fait 30 mètres de haut au-dessus de l'eau, et qu'il y a 10 fois plus encore sous l'eau. Et parfois, il y a des oiseaux marins qui volent devant. Et là, on se rend compte de son gigantisme. Ouais, c'est un vrai monstre. Et on l'a longé pendant des heures. On n'en voyait pas la fin.
Et alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes tombé dessus, en gros. Pardon, je vous le demandais comme ça. Est-ce que vous êtes tombé dessus par hasard? Ou est-ce que quand on sait qu'on n'est pas loin, vous étiez en bâton, on se déroute?
Non, en fait, ouais, j'étais sur un navire d'expédition de croisière et il était vraiment sur notre route entre l'île de la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Il faisait exactement le même chemin que nous, mais en sens inverse. S'il avait été plus au sud ou plus au nord, on l'aurait pas vu, on n'avait pas le temps de faire un détour. Et le commandant Olivier Charbonnier a quand même un peu rapproché le navire, mais en gardant des distances pour éviter toute mauvaise rencontre. Je pense qu'on connaît toutes et tous l'histoire du Titanic.
On sait qu'on peut s'en approcher. S'ils sont posés là, c'est qu'il y a largement de l'eau, il y a du fond. Et on n'a aucun risque pour s'échouer. En revanche, le risque, c'est de rencontrer des blocs de glace qui se sont détachés. On préfère rester à une distance de minimum 400 mètres, mais généralement, on est un peu plus loin. Ce qui permet aussi d'avoir une belle vue d'ensemble.
Alors, en prenant un peu de distance, on voit en fait qu'il est tout plat sur le dessus, comme un gros cube. Ça ressemble en fait à une énorme table, d'où son nom d'iceberg tabulaire. Et en passerelle, le glaciologue Léo Decaux était émerveillé lui aussi. Il exerce le métier de guide polaire quelques mois par an en Antarctique.
J'ai même pas les mots, c'est incroyable, parce que en tant que glaciologue, je sais que je verrai ça qu'une fois ou deux fois dans ma vie. C'est fou parce qu'on n'arrive pas à se représenter la taille et le volume que ça fait, qu'on a l'impression d'être au bord de l'Antarctique. Pas du tout. C'est vraiment un iceberg qui est en train de se déplacer. On est vraiment en plein milieu de l'océan. Et on voit que cet iceberg, en plus, c'est très vieux, parce que là, on peut observer des grands arches. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que ce front de glace est exposé à une haute mer, avec beaucoup de houles, de vagues, qui sont venues le grignoter petit à petit, l'abîmer. Donc on voit que son front est vieux et a été très usé par la mer.
Cet iceberg, il s'est détaché de sa plateforme de glace, comme vous le disiez, en 1986. C'est-à-dire qu'il a le même âge que moi, Fabienne. Alors quand Léo Decaux dit vieux, très usé, moi je trouve qu'il a plutôt bonne mine. Moi, c'est vrai qu'il est beau avec ses couleurs et ses différentes teintes de blanc et de bleu. Et en fait, il nous ferait presque oublier le chemin qu'il a pris et la menace potentielle qu'il représente pour la Géorgie du Sud.
Et alors, on va y venir avec Adi Seves, mais rapidement, Oriane, ça ressemble à quoi la Géorgie du Sud ?
C'est une petite île très montagneuse en forme de croissant qui est couverte de glaciers. En superficie, c'est la moitié de la Corse, la même taille que notre iceberg géant. Mais là-bas, ça grouille de vie. Il y a des centaines de milliers d'oiseaux, de mammifères marins qui viennent se reproduire et nicher là pendant l'été austral, donc en ce moment. Et on ne peut pas faire un mètre sans tomber sur un animal. Des manchots, il y a des otaries, des éléphants de mer, il y en a partout. Alors oui, les experts s'accordent pour dire que l'iceberg pourrait empêcher certains animaux de se nourrir en mer. Mais en fait, c'est très difficile à prévoir puisque ça n'est jamais arrivé. Mmh. Et en parlant avec la biologiste Camille Toscani qui était à bord du navire, j'ai compris qu'à l'heure actuelle, la principale menace pour la biodiversité de la Géorgie du Sud, c'est pas tant cet iceberg géant qui va peut-être se disloquer avant d'atteindre les côtes, mais c'est malheureusement la grippe aviaire qui fait des ravages depuis deux ans déjà là-bas.
Merci beaucoup, Oriane. Merci vraiment. Avant de reparler de ce risque-là et d'autres, Adi Seves, je voudrais juste savoir si vous êtes un peu envieuse, en fait, ou si vous aimeriez le voir, ce gros iceberg, ou si vous dites, c'est bon, j'en ai vu d'autres.
Ah, je suis terriblement jalouse. Je suis très heureuse, en tout cas, de savoir Léo et Oriane ont eu la chance d'observer l'iceberg. Et on s'y croyait, quoi. Mmh. Quand il nous explique tout ça, ses couleurs, ses sons, cette taille, ça a l'air extraordinaire.
Alors, option 1, donc, Oriane nous l'a expliqué, il touche les îles de Géorgie du Sud, 20 cm par seconde, ça fait 3 à 4 cm par semaine. Ça fait, qu'il l'atteint dans 3 ou 4 semaines, j'y suis. D'abord, est-ce que c'est certain, Heidi ? Parce que j'ai vu qu'il pouvait aussi s'enliser dans les hauts fonds. Est-ce que c'est 100% tamponné la Géorgie du Sud ou pas ?
C'est pas encore 100%. Allez, il est surveillé de très près par images satellites, et la chance qu'on a, c'est aussi une bonne cartographie des fonds sous-marins. Donc c'est un peu 50-50 en ce moment, mais en effet, évidemment, la raison pour laquelle tout le monde en parle, c'est parce qu'il risque de s'échouer autour de ce petit croissant. Et malheureusement, oui, les implications pourraient être terribles pour les populations animales sur place.
Alors, les populations animales, et aussi, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que l'eau de l'iceberg, elle est douce. Est-ce que ça change carrément la salinité de l'eau qui est autour, et est-ce que ça a des conséquences lorsque un mastodonte de ce genre arrive à cet endroit ?
Oui, c'est pas par hasard s'il y a des pays qui ont songé à aller chercher des icebergs de l'Antarctique pour avoir accès à de l'eau potable pendant des mois, voire des années. C'est une quantité d'eau absolument gigantesque, il faudrait que je fasse le calcul. Mais oui, sans aucun doute, ça va changer une partie de la chimie, une partie de la densité de l'eau à proximité de l'iceberg. Après, ce sont des eaux particulièrement violente. J'ai eu la chance une fois de me rendre sur cette arche de Noé qui est la Géorgie du Sud. C'est très violent et donc on aura un mixage des eaux vraiment très prononcé. Mais ce qui est particulièrement fascinant, c'est que l'iceberg, c'est pas que de l'eau, c'est aussi des sédiments. Et lorsque l'iceberg fond, naturellement, il va fertiliser ses océans. Parfois, dans certaines parties des océans australes, on est en manque de certains minerais. Et bien, cet iceberg va pouvoir petit à petit semer ces minerais dans cet océan qui va pouvoir participer, par exemple, à la croissance du plancton. Donc, il y a quand même, il n'y a pas que du négatif avec cet iceberg, il y a un peu de poésie aussi, dans le sens où l'iceberg peut aussi permettre de donner la vie.
Mais petit à petit, ça veut dire quoi, Eddie Sévestre ? On parle en dizaines d'années, on parle en quoi, en fait ?
Alors là, l'iceberg, comme l'a très bien dit Oriane, il date de 1986, donc il en a encore pas mal sous le coude. On peut suivre des icebergs pendant encore quelques années, et là, à voir à quelle vitesse ils se délitent. Ils semblent quand même être un petit peu en lutte en ce moment, mais ça peut durer encore un petit moment cette histoire, encore quelques mois, voire quelques années.
Alors on a bien compris effectivement que c'était dangereux pour la faune s'il touchait la Géorgie du Sud, parce qu'effectivement, pour dire les choses de manière très basique, ils bouchent l'entrée à la mer, en fait, pour les animaux qui en ont besoin constamment. S'ils se cassent en morceaux, en plus de morceaux avant, c'est moins grave ou c'est pareil ou même c'est pire parce qu'ils risquent d'enserrer peut-être complètement l'îlot? Comment ça se passe?
Oui, c'est difficile à dire, mais en effet, il pourrait y avoir une situation où l'iceberg se délite et ces morceaux-là s'éparpillent encore plus. Et donc, à voir là, si ça bloque vraiment ces accès à des zones d'alimentation ou au contraire, il y a des petits raccourcis qu'on peut prendre entre des morceaux d'iceberg. Mais au-delà de ça, je trouve ça assez formidable, en tout cas, de voir l'attention qui est donnée à cet iceberg, parce qu'on est en plein dans l'année internationale pour la préservation des glaciers. Et justement, c'est le moment, je pense, de réaliser l'importance de ce qui se passe tout au sud, en Antarctique, l'importance de ce qui se passe là où on est avec Oriane en ce moment, dans l'Arctique, voir ce qui se passe dans nos propres montagnes. Aujourd'hui, une grande partie de notre économie, de notre industrie, de notre agriculture dépend encore de la présence de glace, notamment dans nos montagnes. Et donc, c'est vraiment un moment formidable pour nous, en tout cas de mettre un coup de projecteur sur ces zones de glace dont on a encore bien besoin.
Et c'est vrai, et en même temps, quand on voit sa beauté, sa majestuosité, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le voir comme ça, Eddie Sévestre, et d'y voir presque quelque chose d'hollywoodien, en fait. Et je me demandais, dans ces cas-là, si ça servait la cause, y compris celle du réchauffement climatique, quand on est subjugué par le paysage que cet iceberg nous envoie.
Alors, j'en suis convaincue, je pense que De toucher cette corde sensible, de nous toucher en plein cœur en regardant la beauté de ces écosystèmes-là, peut-être qu'on cherche à mieux les comprendre, peut-être qu'on cherche à mieux les protéger. Aujourd'hui, il faut réaliser que, moi, une grande partie de la raison pour laquelle je suis devenue glaciologue, c'est parce que ces écosystèmes-là sont extraordinairement beaux. Et malheureusement, si on continue à brûler des énergies fossiles, cette beauté unique sur Terre, on va la perdre. Donc si on peut partager la science au travers de cet émerveillement, au travers de cette émotion, je suis convaincue que ce sera vraiment une bonne raison pour préserver ces écosystèmes.
Et au fond, c'est très inhabituel, incroyable, mais ça vous rend service aussi, cet énorme monstre, parce que effectivement, il est observé par satellite, il l'est depuis son détachement, il l'est quasiment millimètre par millimètre. J'imagine qu'il vous apprend mille choses, en fait, à lui tout seul.
Ah, tout à fait. C'est vraiment fascinant. C'est un laboratoire qui dérive en ce moment dans l'océan austral. Et donc, oui, la communauté scientifique ne parle pratiquement que de ça. Mais au-delà de cet iceberg, on regarde aussi de très près ce qui se passe en périphérie du continent antarctique. L'Antarctique, comme j'ai dit, se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne planétaire, se déstabilise de plus en plus. Et même si on perd une fraction de l'Antarctique, donc si une fraction de cette glace continentale se jette dans l'océan, malheureusement, c'est les côtes aquitaines, c'est des endroits comme l'aéroport de Nice, la ville de Caen. Il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh pour comprendre l'importance de l'élévation du niveau des mers. Donc nous, en France, on est directement, intimement liés à ce qui se passe en Antarctique.
Merci beaucoup, Eddie Sévestre, passionnante glaciologue. Merci aussi à Oriane qui a pu nous décrire cet immense morceau de glace. Merci vraiment à toutes les deux. La suite, ce soir, ça se passe dans l'Oklahoma pour les chrétiens nationalistes qui se sentent pousser des ailes depuis l'arrivée de Trump, ce qui peut modifier en profondeur le système éducatif, vous allez voir. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne, sous les radars.
En Uruguay, le président élu ne vivra pas dans son palais.
et Le Monde à 18h50. Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Elon Musk a donc lancé la machine à réduire l'État. Qui va l'arrêter ?
Et Caroline au Pays des 27. Bonsoir. Bonsoir Caroline.
Oui, alors chez moi, il y aura une première séance plénière au Parlement de Strasbourg sous l'ombre de Trump et un scoop pour le deuxième mandat de von der Leyen.
Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète passe par la playlist de France Inter avec Taylor the Creator. Take your mask off. Bah les masques.
Big guns, what you got, huh? Slat, slat, and pop back at the ops, huh? Gang this and you gang that. Don't let them know that you regret how you became that. A good kid, fine home, mom and dad in the pic. A little middle class money, every Christmas legit. Family trips, I be bound one day, hit a switch. You ain't wanna be seen as a bitch, cuz. And none them face tats gon' hide the fact that you sad, bruh. You ain't a thug, you was a drama club, you's an actor. But now, cuz, getting validation from the dumb and confused. Now you facing 5 to 10, cause you had something to prove. Let's talk about it.
I hope you find yourself. Yeah. I hope you take your mask off.
Sad story. Yeah. Preacher man, preacher man, preach. You make these folks think you got something to teach, like you ain't lying. Big bank from them collections, but what you buying? Ain't too fond of them gauge, you don't deny it. Wait, since a kid, you knew something was up. Had you thinking God would hate you, so you covered it up. Gotta hide how you live, what you really enjoy. So got a wife, got a kid, but you be fucking them boys. Sick of all the shame, sick of all the pain that's within. Scared of being seen, tired of rebuking a sin. Traded all to be free and shine bright like the sun. But you back on that religion shit as soon as you come. Let's talk about it.
I hope you find yourself. I hope you find yourself. I hope you take your mask off.
Big ass house that's on the hill, big ass wheels in the garage. 3 cute kids that's in your arms. Your husband just made another meal. You want your life back in a massage. Tired of being at home, personality gone. Body ain't been the same, postpartum is long. Your identity gone, mama your first name. Your last one got changed, they dream about your nest. But you crave flying alone, man. You would start all over if we keeping it real. Current life is full but you ain't feeling fulfilled. Fantasize about the dream you left on the shelf. Can't even get a long time to think of killing yourself. Let's talk about it.
I hope you find yourself.
Eyes feeling narrow.
I hope you find yourself. I hope you take your mess off.
Ensuring our students grasp the core values and historical context of our country. For more, we're joined by the
le reportage d'un jour dans le monde part dans l'Oklahoma. Ce soir, État résolument républicain qui a voté pour Donald Trump à 65%, État hyper religieux, au cœur de ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Le nationalisme chrétien y prospère. Trump y a trouvé un terrain parfait pour faire progresser ses idées, notamment imposer la religion dans l'éducation. Et le reste, c'est Isabelle Labéry qui raconte.
Enseigner la Bible et les 10 commandements depuis septembre, c'est obligatoire dans toutes les écoles publiques de l'Oklahoma. Décision du responsable républicain de l'éducation, Ryan Walters, il s'en explique sur la chaîne PBS.
La Bible est citée plus que tout autre document dans des centaines d'écrits politiques du XVIe et du XVIIe siècle. Il s'agit clairement d'une source historique capitale. Nous la ramènerons dans nos écoles. Nous ferons en sorte que nos enfants de l'Oklahoma comprennent le rôle que la Bible a joué dans l'histoire américaine. Nous ne nous laisserons pas censurer par des extrémistes de gauche. Et si les enseignants ne veulent pas enseigner la Bible, ils peuvent chercher du travail ailleurs.
Au nom de la séparation entre l'Église et l'État, des enseignants et des associations ont porté l'affaire en justice. À leurs yeux, il ne s'agit plus d'éducation, mais de prosélytisme. Ça n'a pas empêché Ryan Walters de lancer un appel d'offres pour acheter 55 000 Bibles. Il en veut une dans chaque classe, et pas n'importe laquelle. L'édition validée par Donald Trump, qui entretient la confusion des genres, car on y trouve aussi la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. Valeur à l'unité, $60. Sur l'immense campus d'Oklahoma City et ses bâtiments de briques rouges, les réactions sont mitigées.
Moi, je suis chrétienne. La Bible à l'école, pour moi, c'est pas un sujet. Ceci dit, je pense que c'est pas là qu'on devrait en priorité dépenser notre argent. Mais bon, c'est comme ça.
Je pense qu'ils ne devraient pas faire ça, parce qu'ils nous forcent en fait. Qu'est-ce qui va se passer s'ils obligent tout le monde à la lire ou à la pratiquer ?
Mark Johnson, pasteur d'une église évangélique, approuve l'initiative qui répond, selon lui, à la spécificité de l'Oklahoma.
On dit que c'est un État religieux, dans le sens où vous avez beaucoup de personnes très attachées à la foi, à la communauté spirituelle de l'église, à ce qu'on appelle les valeurs américaines traditionnelles. Vous savez, jusqu'à récemment, des livres traitant de sexualité, d'identité sexuelle, ont été proposés à nos enfants dans le public, dès le primaire, et souvent à l'insu des parents, ou sans leur consentement. Heureusement, en tant que République, les États-Unis écoutent la voix du peuple. Et en Oklahoma, il se trouve que la voix du peuple est la voix d'une large majorité, enthousiaste à l'idée de transmettre les enseignements éthiques et moraux de la parole de Dieu à ses enfants.
Alison Shortle, enseignante en sciences politiques à l'Université d'Oklahoma City, y voit la parfaite illustration du nationalisme chrétien.
Le nationalisme chrétien, c'est cette idéologie selon laquelle les gens pensent que pour être un vrai Américain, il faut être chrétien. Ils pensent que c'est du patriotisme, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est du nationalisme. Et c'est une tentative de promouvoir la suprématie chrétienne pour que le christianisme prenne le dessus sur toutes les institutions, en politique et dans la société américaine en général. L'objectif, c'est aussi d'obtenir la privatisation de l'éducation pour pouvoir bénéficier d'un enseignement religieux et spécifique enseigné dans la tradition chrétienne.
Dans l'Oklahoma, les conservateurs religieux attendent d'ailleurs avec impatience la décision de la Cour suprême sur le financement d'une école confessionnelle catholique par des fonds publics. L'école a de bonnes chances de gagner, ce serait une première et le début d'une modification profonde du système éducatif américain.
Isabelle Labéry pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord en Afrique de l'Ouest avec des scènes de cohue.
La semaine dernière au Sénégal, hier en Gambie voisine. Dans les deux cas, les mêmes images. Des centaines de personnes, beaucoup de jeunes hommes massés devant les bureaux de l'administration pour déposer leur dossier afin d'obtenir un visa temporaire pour l'Espagne. L'été dernier, Madrid a annoncé le lancement d'un programme permettant à des Gambiens, des Sénégalais et des Mauritaniens de venir travailler en Espagne un temps donné dans les secteurs qui manquent de main-d'œuvre avant de rentrer en définitive dans leur pays d'origine. Hier en Gambie, certains attendaient devant le ministère du Travail dès 4 heures du matin. À l'ouverture à 8 heures, des hommes ont escaladé les murs de l'enceinte. Des bagarres ont éclaté, provoquant une grosse bousculade. La distribution de formulaires a été suspendue à Dakar la semaine dernière. Les autorités ont finalement obligé les candidats à postuler en ligne pour éviter les débordements. Nouvelle illustration de la détresse d'une partie des jeunes de cette région qui veulent rejoindre l'Europe via cette fois la voie légale, alors que plus de 10 000 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière.
Nous voici en Uruguay où le président élu veut être normal.
Et pour ça, Yamandou Orsi, qui prendra ses fonctions le 1er mars, va continuer d'habiter dans sa propre maison. Président ou pas, il va rester avec sa famille à Salinas, ville balnéaire en banlieue de la capitale Montevideo. Le président de gauche refuse donc le grand confort de la résidence officielle de Suarez, son étang, son terrain de sport et sa roseraie. Yamandou Orsi dit surtout vouloir rester auprès de ses enfants parce qu'il passe dans l'enseignement secondaire et que c'est important, dit-il. Cet ancien prof d'histoire s'inscrit ainsi dans la lignée d'un autre président de gauche, Pepe Mujica, qui en 2010 avait continué de vivre dans sa ferme. C'est sans doute plus facile en Uruguay, pays de 3,5 millions d'habitants, qu'en France. On se rappelle de François Hollande qui avait envisagé de rester dans son appartement parisien après son élection, avant de finalement s'installer à l'Élysée.
Enfin, nous sommes en Écosse avec une drôle de mise au point.
Oui, celle du Premier ministre John Sweeney, c'était hier, écoutez. Le gouvernement n'a aucune intention de restreindre la possession de chats, curieuse déclaration qui fait suite à une certaine incompréhension après la publication ce week-end d'un rapport de la Commission écossaise pour le bien-être des animaux. Elle recommande en fait de limiter la présence de chats dans des zones où la faune sauvage est fragile parce que d'après cette commission, les félins domestiques peuvent, je cite, « avoir un impact significatif sur les populations d'animaux sauvages, notamment les oiseaux, parce que les chats, eh oui, sont des prédateurs. » Cette commission préconise par exemple, dans ces zones, d'interdire les chats à l'extérieur, sauf s'ils sont tenus en laisse. Dimanche, le gouvernement a dit qu'il prendrait, je cite, « pleinement en compte ses recommandations ». Donc, d'où le vent de panique, hein, les Écossais se demandant alors si on allait leur interdire de posséder un chat. D'où cette déclaration très officielle, vous l'avez entendu, du Premier ministre. Soyez rassurés, Fabienne, les chats sont sauvés, je sais que ça vous tracasse.
Oui, je ne ferai aucune remarque, vraiment. Kevin, merci beaucoup, à demain. Allez, vous partez avec Sarah McKenzie. Quoi dans un jour dans le monde, un jour dans le monde, un jour dans le monde.
Ah oui.
Quoi. What have you done to me? The music plays with me. I never meant to walk your way. And then one day love walked my way. And now I'm all la 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 la. Pa da pa pa pa. Qua 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 qua. Qua 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 qua. Qua 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 qua. What is the meaning of? Pa da pa 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 pa. The rhythmic feeling of. I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 la, pa da pa pa pa, qua 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 qua. Oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait, and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, a way now. Stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, pa da pa pa pa, qua 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 qua. Je ne sais quoi. Truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, a way now.
Quoi quoi quoi, Sarah McKenzie sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Franck Madvon.
Fabienne Saintès.
Le 18-20. Franck, on en a parlé dans le journal de 18h. L'administration Trump est en train de faire le ménage dans des proportions inédites au sein des agences publiques américaines. Et ce soir, vous nous dites pourquoi la méthode Elon Musk pourrait broyer l'État fédéral.
Partons d'un exemple, Fabienne, pour mesurer l'ampleur des coupes, le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. 40 milliards de dollars de budget, assistance humanitaire, économique, c'est un outil d'influence majeur pour les États-Unis dans le monde. Mais pour Donald Trump, l'agence est dirigée par des cinglés extrémistes et il a suffi d'une semaine pour régler son sort. Lundi, il y a 8 jours, des collaborateurs d'Elon Musk entrent dans les locaux d'USAID à Washington. 60 cadres sont virés immédiatement. Des centaines de contractuels perdent leur travail dans la foulée. Samedi, le site internet de l'agence n'est plus accessible. Et hier, Musk annonce qu'elle sera fermée. En résumé, USAID est soupçonné de financer des marxistes et des criminels avec l'argent du contribuable.
Et ça, c'est qu'un exemple.
Ben oui, on pourra en citer beaucoup d'autres. Elon Musk et son équipe sont entrés en action. L'homme le plus riche du monde dirige le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, qui a pour mission de réduire drastiquement le budget de l'État. Musk espérait 2000 milliards de dollars d'économies sur un budget d'environ 6700 milliards. Il vise désormais plutôt 1000 milliards, ce qui reste colossal, et applique à l'État les méthodes brutales testées chez Twitter, dont il a réduit les effectifs de 80% en moins de 2 ans. Il y a pile une semaine, 2 millions de fonctionnaires ont ainsi reçu un courriel leur proposant de démissionner et d'être payés jusqu'en septembre. Objet du mail « Fork in the road », la croisée des chemins, le même intitulé que les messages envoyés au personnel de Twitter lors de son rachat.
Le département, Franck, dirigé par Musk, suscite beaucoup de questions.
Ce doge n'entre dans aucun cadre. D'après les médias américains, le patron de Tesla travaille avec des dizaines d'ingénieurs parfois très jeunes. L'un d'eux a été identifié par le magazine Wired. Il a 19 ans, il était stagiaire chez Neuralink, la start-up de Musk spécialisée dans les implants cérébraux. Cette équipe semble avoir accès à toutes les administrations. Elle a pris le contrôle des paiements du Trésor américain, qui paye les factures du gouvernement. Musk et ses collaborateurs travaillent jour et nuit. Le week-end, ils ont même installé des lits dans leurs bureaux. Des élus démocrates s'indignent. Doge n'a pas d'autorité pour prendre de telles décisions, estime Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat.
Mais alors, de fait, est-ce qu'il y a des garde-fous ?
C'est la grande question du moment. USAID, par exemple, a été créé par le Congrès, qui devrait donc pouvoir se prononcer sur son éventuel démantèlement. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, nommé directeur par intérim de l'agence, assure qu'il travaillera avec les élus du Capitole. Donald Trump, lui, promet que Musk ne peut rien faire sans son accord. Mais demeure cette impression que le patron de Tesla n'est soumis à aucun contrôle. Quel est son statut, celui de ses collaborateurs ? Ont-ils accès à des documents top secrets ? Qu'en est-il d'éventuels conflits d'intérêts ? Après tout, Elon Musk peut prendre des décisions qui concernent ses propres entreprises, dans l'automobile ou dans l'espace. À ce stade, rien ne semble pouvoir freiner la machine à réduire l'État lancée par le milliardaire. Une machine qui pourrait transformer l'Amérique et son influence dans le monde.
Franck Madvon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, malgré tout, Franck. Le mardi, c'est Caroline Gillet qui ouvre les portes de l'Europe. Ah bah non, ça c'est pas possible. L'Europe, c'est pas ça. Non, ça c'est ce qu'on vient. Est-ce qu'on met les... Moi je peux le faire. Toc, toc, toc. Vlam. Voilà. Caroline Anna Hubert, journaliste au magazine en ligne Contexte, vous envoie des notes vocales depuis plus d'un an pour vous raconter l'intérieur, ce qui se joue dans les institutions européennes, et c'est elle qu'on retrouve ce soir.
Oui, elle comme moi, comme vous Fabienne, il me semble, on a trouvé que ce mois de janvier, en ressenti, avait duré environ 683 jours, notamment parce qu'il y a eu l'investiture de Donald Trump et les décisions qui ont suivi. Et bien ça coïncide avec la première séance plénière du Parlement européen à Strasbourg. Pour rappel, des séances plénières, il y en a une par mois. Les 720 eurodéputés se déplacent dans un train mystérieux, un train fantôme, vous allez l'entendre, de Bruxelles à Strasbourg pour débattre et voter. Mais donc, séance un peu spéciale en ce début d'année, Anna Hubert y était.
Je erre dans les couloirs du Parlement européen à la recherche de mon point de rendez-vous, parce qu'il y a 36 bars... Et café.
Anna est perdue, vous aussi potentiellement, alors accrochez-vous. À Strasbourg, les députés votent soit des textes qui leur sont soumis par la Commission européenne, des rapports législatifs ou pour le budget, soit des textes élaborés par le Parlement de sa propre initiative, mais qui sont alors des rapports non législatifs.
Le bar des cygnes qui n'est pas le même que le bar des fleurs, qui n'est pas le même que le bar de presse, qui n'est pas le même que le tracteur bar. Et je suis très en retard.
Il y a aussi différentes procédures qui rendent possible pour le Parlement d'interpeller les autres institutions.
Celui qui n'a pas de place en salle de presse, assis, voilà.
Si vous dites que là maintenant ça pourrait vous faire une belle jambe de tout savoir sur les séances plénières européennes, je mets un article du site Toute l'Europe sur la page de la chronique. Mais donc cette première séance est un peu particulière. Là, il est 22h33 quand Anna m'envoie cette note vocale pour débriefer de la journée.
Mais en fait, c'est vrai que c'était une plénière un peu spéciale parce que à la fois, il se passait rien ou pas grand-chose sur le plan législatif. Et en même temps, il se passait un truc énorme tout près de nous et de l'autre côté de l'Atlantique.
On est alors le lendemain de l'investiture de Donald Trump.
Là, on est le 21.
Sur le 21 janvier.
On voit que l'hémicycle est assez divisé, avec quand même une grosse majorité qui a assez peur, qui est très critique quoi, des premières mesures de Donald Trump. Et puis quand même, une partie de l'hémicycle non négligeable, à la droite de la droite et à l'extrême droite, qui voient ça comme quelque chose d'assez encourageant pour eux, pour leurs idées. Donc une vraie division entre les groupes politiques sur ce que ça veut dire. Ouais, c'est un moment étrange.
L'autre gros sujet de cette première plénière, c'est d'essayer de trouver des infos sur les grandes orientations des 5 prochaines années. Et quel meilleur endroit pour parler de ça que la cantine du Parlement ?
Von der Leyen a fait des promesses sur les grosses initiatives qu'elle présenterait dans les 100 jours. On arrive quasiment à la fin des 100 jours, en tout cas le mois prochain. Et donc tout le monde veut savoir ce qui va être mis sur la table, essayer d'anticiper. Et nous, on aimerait aussi avoir les infos et surtout les textes en avance, avant qu'ils soient mis sur la table. Je sais pas si tu entends la sonnerie derrière moi. C'est la sonnerie qui annonce aux eurodéputés qu'il faut revenir dans l'hémicycle parce qu'il y a un vote. Mais voilà, il y a beaucoup de queues aux différents stands de la cantine. Je ne sais pas s'il y a des eurodéputés dans la queue, mais ils vont certainement être à la bourre pour les votes. Et voilà,
Anna qui reprend le train pour rentrer à Bruxelles.
Après 2 jours et demi de plénière super intense, un bon niveau de caféine dans le sang.
En deuxième classe.
J'ai loupé ma voiture, je suis en première classe. Enfin, je suis devant la première classe. Bon, j'ai pas du tout pris un billet de première classe. Et il y a pas mal de gens de la bulle bruxelloise qui sont aussi dans ce train, j'ai l'impression. Ceux qui n'ont pas pris le train spécial où il n'y a que les eurodéputés et les assistants. Ce train qui ne s'affiche pas vraiment sur les panneaux SNCF et qui est direct pour Bruxelles. Ça, ce serait vraiment un rêve de pouvoir m'incruster dans ce train.
Coucou Caroline, je te fais juste un message rapide. Toute la rédac est un peu en effervescence. Ma collègue Laura vient d'avoir un scoop, puisqu'on a eu le projet de boussole de la compétitivité, qui est le texte que la commission doit présenter la semaine prochaine, mercredi. Là, on est vendredi, il est presque midi, et tout le monde commence à dépecer ce doc. Et donc, on est très content avec Laura parce qu'elle a eu le doc, et en même temps, on n'est pas content parce que c'est vendredi et qu'on va finir tard. Probablement.
Dernier message, c'était mercredi dernier, le 29 janvier. Ça y est, conférence de presse de von der Leyen pour annoncer sa boussole de compétitivité.
Donc tout le monde est super excited. Non, je rigole. Je suis en train de passer sous la rue de la Loi, par la station de train, pour aller plus rapidement à la Commission européenne et avoir une place en salle de presse. Il paraît qu'il y a déjà pas mal de monde. C'est le scanner de la commission, il y a déjà une grande queue. Donc là, le texte final a été dévoilé. Effectivement, il n'y a pas de gros changements, mais quelques petites nuances par rapport au leak. Il n'était pas du tout mentionné le nouvel objectif climatique de l'UE pour 2040. Finalement, là, il y a une petite ligne qui a été ajoutée pour dire que l'Union européenne a bien toujours l'intention de se doter d'une cible climatique pour 2040 et que ça devrait être moins 90%. Le gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Voilà.
Oui, voilà, je trouve toujours qu'avec Anna, tout ça a l'air palpitant.
À fond.
Ça donne étonnamment envie de tout lâcher pour assister à cette conférence de presse, par exemple.
Mais totalement. Elle adore les notes vocales, on l'adore.
Voilà, et on va continuer de la suivre et de suivre donc les grandes décisions de la Commission et comment tout ça se vit à Bruxelles.
Eh bien, écoutez, on sera ravis. En tout cas, la prochaine fois que vous venez, Caroline, c'est mardi prochain avec le bon jingle, je vous le promets. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Il est présenté par Hélène Filly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, journée spéciale cancer. On dépiste dans le téléphone.
Oui, il faut se faire dépister. Christelle, j'ai eu un cancer de l'intestin il y a 2 ans sans aucun problème préalable, mais découvert grâce au dépistage colorectal. Je fais maintenant du prosélytisme sur le dépistage autour de moi. Malheureusement, en vain, Delphine, ma grand-mère maternelle, sa sœur, ma mère, la cousine ont eu un cancer du sein. Je vais donc tous les ans faire mammo et écho. J'y vais la boule au ventre et m'attends chaque année au pire, mais je trouve le courage d'y aller. Car j'ai bien conscience du risque que je prends en n'y allant pas. Fabien, comment détermine-t-on l'âge à partir duquel on organise un dépistage systématique de tel ou tel cancer ? Je suis atteint à 48 ans d'un cancer de la prostate métastatique d'emblée. Un dépistage à 40 ou 45 ans m'aurait sans doute permis de guérir de cette maladie.
Allez, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec vous. Avec nous, c'est le même chemin par WhatsApp pour vos pouces et pour vos notes vocales.